saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, ici André Duny pour La Saine Cause. Bon, je voudrais vous dire pourquoi j'irai manifester avec les Gilets jaunes à un point de blocage dans la région, probablement à Pont-de-Beauvoisin. Deux hypothèses, à mon avis, me permettent de vous avertir que le pouvoir en place, Macron et l'élite capitaliste, veulent diviser pour mieux régner. C'est pas difficile, hein, ils veulent séparer les gens de la classe moyenne écolo et le peuple. Et aussi, peut-être que si la manif réussit, ils diront « Ah oui, on peut pas faire de fiscalité écolo, hein, comme avec les bonnets rouges. Donc on arrête tout et on revient en arrière et pendant ce temps-là, le climat nous tombe sur la figure. » Donc, les deux sources d'indignation, qu'elles soient écologiques ou sociales, qu'elles soient du peuple ou de ceux qui ont un peu plus de temps, la classe moyenne, les quelques intellectuels, pour réfléchir à ce climat qui nous tombe dessus, se cumule, se renforce, on n'y arrivera qu'ensemble. Voilà ce que j'ai écrit dans un petit texte que je mets à disposition. Oui, j'irai à un point de blocage. On évitera le blocage total, bien sûr, et toute violence au bien. Oui, il y aura des ambiguïtés. Oui, il y a des tentatives de récup. Mais quand les blés sont sous la grêle, les copains, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Ça, c'était Aragon qui l'écrivait. Pendant la résistance, quand communistes ou chrétiens se trouvaient des poux dans la tonsure pour pas travailler ensemble. Non, on travaille ensemble et le ras-le-bol se divise pas. Je serai avec le peuple, même si on dit quelquefois... Mais pourquoi il faut rouler avec les bagnoles? Parce qu'on n'a pas d'autre moyen. Moi, j'habite en campagne, je suis à 14 km de Pont-de-Beauvoisin. Je vois pas bien comment on peut faire autrement. Tout y est, donc, dans cette manif. Du carburant lourd au budget des travailleurs, comme des retraites allégées, de la CCF qui part en capitalotade avec la suppression de 30% à 40% des TER sur la ligne Bourgoin-Chambéry par la région Rhône-Alpes, avec le sieur Wauquiez. Donc, stoppons un système politique qui n'est que le relais des puissants de l'économie qui enrichit les riches propriétaires et taxe les pauvres. Cadeaux fiscaux, exonération d'impôts. CICE, aux grandes entreprises, hein, c'est le crédit impôt fait aux entreprises du CAC 40, les 40 plus grandes multinationales françaises, 40 milliards en 2017, pour même pas 100 000 emplois créés, 400 000 emplois par emploi créé. Et l'évasion fiscale, d'après mon copain Gredray, économiste, c'est 200 milliards. C'est pas qu'on récupérait 60 ou 70 milliards, c'est 200 milliards. Au moins... on récupérait 100 milliards en créant quelques milliers d'inspecteurs du travail et surtout d'inspecteurs des finances pour faire casquer les riches. Les riches s'exonèrent désormais de leurs devoirs et les pauvres et salariés casquent. L'écologie sert de prétexte à la casque au pouvoir pour privilégier les privilèges. La bagnole électrique au bilan carbone, pas meilleure que les autres, bien moins que le gaz, les bagnoles au gaz, est inabordable, destructrice de vastes régions du monde pour le lithium, et le fameux néodyme, vous savez ce qui est dans les aimants pour faire tourner les moteurs électriques, primes et bornes de recharge sont aux frais du contribuable. Bref, on donne des primes aux bobos les plus riches pour rouler propre et narguer ceux qui n'ont pas de pognon et roulent avec une caisse au gasoil. Or c'est clair, on va payer cher l'inaction. 15 364 chercheurs de 85 pays payés par l'ONU rappellent que l'humanité est dans un état d'extrême urgence climatique. C'est tous ensemble qu'on va y arriver, ou alors on va tous crever. C'est ce que disait d'ailleurs Martin Luther King. Hein. Soit on s'associe comme des sages, soit on crève tous comme des fous. Il ne reste que quelques années pour virer de bord, nous disent-ils. C'est pas des rigolos, ils sont payés par l'ONU, ils sont pas payés par le pétrole ni par les opposants au pétrole, les éoliennes. La trajectoire actuelle pour la fin du siècle, c'est pas une augmentation de 3%, c'est déjà incontrôlable. Voyez les 200 mecs qui ont cramé là dans les villes américaines prises par les flammes. Hein, vous rendez compte, une ville de 30 000 habitants complètement rasée. Bien sûr, les Américains, ils ont pas écolo, tout ce que vous voulez, mais bon, ça veut dire que c'est catastrophique. Et en cas d'incontrôlable catastrophe en chaîne, on a déjà ces incontrôlables catastrophes à 3 degrés. Là, ils nous avertissent, ces 15 364 chercheurs, que c'est plus 5,5 degrés. Bon, en clair, les amis, on plie tout et il y a 7 milliards de morts. C'est la fin de l'humanité. Donc, les plus riches des GAFAM, là, vous savez, Facebook et compagnie, eux, ils veulent employer leurs milliards pour aller se faire une petite colonie sur Mars. Mais qu'ils y aillent. De toute façon, Mars, il faudra des centaines de millions d'années pour refaire une atmosphère. Donc, je vois pas bien qu'ils survivent. Donc, il faut baisser 90, il faut laisser, hein, 90-100% du pétrole. Mais on peut peut-être y arriver. En période de guerre, on a réussi à mobiliser des ressources extraordinaires. Regardez comment les Russes ont mobilisé 12 millions de soldats. Vous me direz, ils ont eu 11 millions de soldats morts et 20 et 14 millions de populations civiles tuées. C'est peut-être eux qui ont libéré l'Europe. Ça faudra qu'on en reparle. Mais les Américains ont mobilisé de ressources énormes. Ils ont débarqué, ils ont donné un bon coup de main. Hein. Ils ont eu 280 000 morts, les Russes 26 millions. Bon, bref, une économie de guerre est possible pour relocaliser la production et de faire une économie de production par les masses. Beaucoup d'agriculture, c'est 1 million d'emplois, beaucoup de petites éoliennes ou de petits photovoltaïques ou beaucoup de jardins de communaux, beaucoup de fermes collectives comme celles dont on vient de parler. Il faut arrêter la production de masse de l'industrialisme capitaliste qui est avide de pétrole. Voilà. Donc, un pétrolier qui nous ramène les saloperies du monde entier, c'est 50 millions de bagnoles de pollution. Donc, c'est par l'égalité sociale qu'on mobilisera la nation. Il faut arrêter de se diviser et de se faire des reproches mutuels. C'est par l'unité, la convergence, l'intersection qu'on arrivera à... voilà. Donc... Il y a quelqu'un qui a écrit, là, ça m'a plu, hein, une meuf, comme elle dit. Quand la goutte fait déborder le vase, l'imbécile regarde la goutte. On ne va pas regarder la goutte du fait qu'on se bat contre une taxe qui ne touche que les pauvres. Ça, c'est l'imbécile qui regarde la goutte. En fait, le vase déborde. Il déborde de tous les côtés. Les pauvres sont les premières victimes quand il y a des catastrophes écologiques, inondations, sécheresses. Et il est de vrais moyens, de vrais boulots de qualité qu'on peut faire naître en masse si on taxe les riches, si on reprend le pouvoir de nationaliser, si le crédit peut servir à faire de l'alimentation publique. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce coup-là. Je vous rappelle que moi, je roule avec une Sandero au gaz. Une Sandero au gaz, les amis, ça pollue 60 fois moins que du gasoil. Pourquoi pas ? Plutôt que ces bagnoles électriques hors de prix et finalement aussi polluantes à fabriquer qu'un diesel, pourquoi ne pas aller vers ces petites bagnoles qui, en quelque sorte, sont réparables, il n'y a pas de gros modules électroniques et qui nous permettent de nous déplacer à la campagne. Et puis, si on faisait des méthaniseurs, les copains, eh ben, on aurait du biogaz. Le biogaz, c'est très simple. Tu mets une tonne de fumier, tu as 150 ou 200 mètres cubes de méthane à la sortie. Et puis du gaz carbonique. Gaz carbonique, tu le dissous dans l'eau. Si on met de la graisse, on a 500 mètres cubes. C'est énorme. Eh bien, avec ça, on fait tourner un alternateur. On fait donc de l'électricité communale, notamment pour les HLM, pour les mairies. Ben, pourquoi on ne le fait pas? Ça, ce n'est pas très cher. Il y a 6 usines en France qui fabriquent des méthaniseurs. Faisons des méthaniseurs municipaux et assurons-nous de l'électricité, un peu de chauffage et surtout aussi du gaz pour la cuisine. Et on ferait rouler aussi nos bagnoles, nos tracteurs, avec ce biogaz méthane, et c'est zéro carbone rajouté. Tandis que quand on roule en diesel, c'est vrai que ça pollue, ça pue et ça tue, mais il y en a qui n'ont pas le choix. Alors arrêtons de se diviser, il n'y a pas de fracture, il n'y a que tous ensemble, on se bat pour un avenir vivable pour tout le monde. Merci. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, téléphonez-lui 06 75 80 05 119, André Duny, je répète, 06 75 80 05 79, tous demain à un point de blocage avec les gilets jaunes, bien sûr, sans le blocage total, évidemment qu'on va laisser passer les ambulances, sans violence aux biens et sans violence aux personnes.
Avec mes illusions de mouiller l'autre pinote. travaille comme un con. Le monde m'énerve. Je veux surtout pas savoir le temps qu'il faut dans une semaine. Anyway, je sors pas dehors parce qu'il y a rien que j'aime. Ça pue la neige qui fond, la plage bien tout restée vieille. Ma tante en ski de fond, plastique gauze de schiste. Tu m'énerves quand toute ta vie t'attends à tous les dimanches pour faire ton épicerie. Routine bien ancrée dans ton ménage à la con. Attention quand ça va péter, tu vas te prendre dans ton salon. Oh, 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 le monde m'énerve. Bon, mais là ça va faire, ça va péter les tympans. Le prix, t'es toujours pareil, c'est pas j'avais pas le temps. J'ai juste copié-collé un simple préfet. Chialer pis te faire chier avec. Tu vas sûrement entendre ça sur Facebook un moment donné, parce que c'est juste là tes amis partagent avec toi. Mais ouais, t'es ouais plus. Pis je comprends pourquoi ils sont même pas foutus t'appeler quand c'est important. Pis moi je suis pas mieux, je fais comme le troupeau. J'ai oui au petit monsieur qui mange la laine du dos. Après ça je me plains que je mange juste des miettes. Que l'argent brûle des mains à force de payer. Bon ben là je suis tanné, je m'en vais me coucher sur mes deux oreilles parce que je suis crevé, mais j'ai fini ma bouteille. Excuse-moi si je t'offense, c'était pas voulu. Mais où est-ce que tu penses, ça passe par-dessus. Donne-moi du ritalin, comme à ton petit garçon. Je vais être tranquille dans mon coin, je fais plus la crise de son. Pis dans une dizaine d'années, quand ça fera plus assez effet, tu me traiteras de drogué. T'auras eu la crise de peine. Tu m'énerves.
Bonjour, ici La Seine Cause, hein, c'est comme ça que Radio Couleur Chartreuse a voulu que je chronique sous La Seine Cause. Ça fait un peu tontondré ou bien l'ancêtre, comme dit mon copain Thomas à côté. Donc on va faire aujourd'hui on a invité deux fermes collectives ou coopératives de Chartreuse. J'en connais pas plus, mais il y en a peut-être d'autres. Et donc, on va les accueillir ici. C'est la ferme de la Bande.
Ferme collective de Bande.
Voilà.
Donc, je suis Véronique Pellé. Je viens à Brûle-Pourpoint, là, à la place d'Anne-Laure, qui vit depuis un an là-bas. Moi, je suis là depuis un mois. Je m'y trouve bien, donc je me sentais suffisamment à l'aise pour en parler.
D'accord. Donc, ce sera toi qui parlera pour Band of Band, enfin, pardon, la ferme de la Bande. Bon, la Bande, c'est un lieu dit à côté de...
Ouais, Saint-Christophe-la-Grotte.
Saint-Christophe-la-Grotte. Et puis, le grand Thomas, aux beaux yeux clairs. Alors, Thomas, toi, c'est pour la ferme de la Berthe.
Ouais, voilà. Moi, je suis venu parler pour la ferme de la Berthe pendant une petite heure, là, ensemble. Et voilà.
D'accord. Donc, la question, on arrive tout de suite dans le sujet, hein, on n'a pas tant de temps que ça. Pourquoi vous faites ça? On commence par toi, puisque tu es lancé.
Ouais, bah alors, c'est une question pas si évidente. Je pense que la raison principale pour laquelle on fait ça, donc, c'est... Les constats sont assez clairs au niveau environnemental, économique, social, politique, qu'il n'y a pas trop de raisons d'attendre davantage pour se prendre en main et anticiper les situations à venir, notamment en termes d'alimentation, d'énergie, de capacité de faire avec nos mains. Et donc, il y a maintenant 6 ans, on a acheté une ferme avec l'appui de Terre de Liens. Donc, peut-être qu'on pourra parler du montage juridique et du foncier après, mais... Et donc on était 8, donc c'est tout simplement une bande de potes qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait de nos vies et est-ce qu'on veut continuer à avoir nos petits boulots tranquilles avec nos revenus qui tombent tous les mois ou est-ce qu'on essaye d'entreprendre un projet porteur de sens, d'avenir et en se prenant en main, en se mettant en mouvement.
Un bon paquet d'ingénieurs parmi vous, hein.
Ouais, bon, on est plusieurs parce qu'on a fait des études d'ingé, donc on a sympathisé pendant les études et on est quatre effectivement à avoir fait des études d'ingénieur et un peu saturé de la forme que le travail pouvait prendre derrière un ordinateur ou au téléphone. On a eu l'envie de concrétiser ce projet qui a pris 3 ans à être monté, donc ça veut dire que le début de ce projet, c'est 2008-2009, donc presque une petite dizaine d'années en fait qu'on a commencé à mûrir ce projet. Et une des raisons aussi, c'est bon, on va dire une raison, c'est la relation amicale, de se dire bon, ok, on est une bande de potes, est-ce qu'on limite nos rencontres à une petite
bringue.
Une petite bringue annuelle de jour de l'an, puis peut-être nos mariages, les 50 ans et puis les enterrements des uns des autres, ou est-ce qu'on essaye de s'organiser différemment et de se dire on est suffisamment potes pour monter un projet ambitieux. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, moi, j'étais pas mal moteur à l'origine de ce projet, notamment parce que j'avais un peu trop creusé les questions liées à l'énergie, en particulier le pétrole, parce que j'avais fait une étude sur le sujet. Et de cette étude et de cette sensibilité déjà que j'avais sur les enjeux environnementaux, je me suis rendu compte que notre génération, on allait de toute manière voir des évolutions dans notre rapport à l'énergie assez radicales. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais assez orienté, mono-orienté sur le fait que les solutions n'allaient pas venir de... Ouais, ou surtout n'allait pas venir d'en haut, mais que les solutions étaient toutes entre nos mains et qu'il ne manquait juste des gens suffisamment visionnaires pour concrétiser. Puis j'avais une petite citation là qui me portait pas mal. Alors je sais plus de qui elle est, mais en gros qui dit. Ne doutez jamais qu'un petit nombre d'individus
déterminés
est en mesure de changer le monde. De fait, c'est toujours ça qui s'est passé. Et ça m'a beaucoup porté parce que finalement, des visites de collectifs à droite à gauche que j'ai pu faire, je me rends juste compte que ça tient vraiment à pas grand monde initialement. Que d'être en mesure d'amorcer des projets qui sont pérennes au niveau humain et financier, mais aussi que ces projets-là ont une capacité de transformer un territoire de manière assez radicale sur des... Quand on commence à prendre un peu de recul sur 10, 15, 20 ans. Je vais peut-être pas prendre des exemples là maintenant, mais, ouais. Mais voilà, en tout cas...
Juste un mot, alors dis-nous un peu... Là, tu as dit pourquoi, mais dis-nous un peu, c'est quoi, au fond, le grand projet de la ferme ?
Bah, la ferme, on va dire, initialement, c'est... On va chercher un bout de terrain, ça sera notre terrain de jeu pour pouvoir concrétiser toutes nos aspirations et nos valeurs. La réalité aujourd'hui, c'est on n'avait pas du tout l'ambition initiale d'être on avait l'ambition d'être des paysans, mais on ne pensait pas être des agriculteurs. Aujourd'hui, la ferme de la Berthe, c'est un lieu collectif d'habitat et d'activité sur lequel 3 activités agricoles sont nées, donc de l'apiculture, du maraîchage et des chèvres. Et à côté de ça, une association qui s'appelle l'association La Mijote, qui fait tout ce qui n'est pas agricole, si ce n'est une production de jus de pomme issue de glanage sur l'ensemble du territoire. Mais sinon, voilà, l'association La Mijote, c'est principalement de l'accompagnement à l'autoconstruction avec un bel atelier qui travaille le bois, le métal et le tissu. C'est une programmation culturelle avec quelques événements et demain des formations autour des savoir-faire dans une recherche de réappropriation des savoir-faire. Et puis une dernière dimension qui tourne autour de l'accueil. L'accueil de gens qui ont besoin d'un espace pour du travail manuel ou intellectuel, mais aussi de l'accueil de jeunes qui se posent des questions sur la vie ou pas, et qu'on les invite à se poser des questions. Voilà, donc c'est à peu près ça qui se passe.
En fait,
sur la ferme.
Vous organisez aussi des séminaires, des rencontres, non, autour
bah,
de
peu,
la...
peu, peut-être demain plus. Là, on continue, on est encore sur des travaux à créer des espaces pour pouvoir... être en mesure d'accueillir un peu plus décemment, donc peut-être même demain de pouvoir accueillir des hébergements
sur le partage
de nuit.
Des terres agricoles, vous avez bien fait des choses.
Non, il y a eu eu des rencontres, mais plus des rencontres fermées, on va dire, c'était pas des rencontres publiques. Après, effectivement, on fait partie parfois. Bon, il y a des projections, il y a le festival alimentaire qu'on a programmé l'année dernière. Il y a quelques fois des temps philo, des temps de... Mais il n'y a pas aujourd'hui une programmation consistante et notamment avec... voilà.
D'accord. Bon, voilà, ça, vous qui nous écoutez, donc c'est bien la ferme de la... Berthe, c'est à Saint-Franc. Et maintenant, vous êtes combien? Vous êtes plus que 8, là? Vous êtes combien?
En fait, on est 9 habitants permanents, plus 2 enfants, et un petit paquet d'animaux entre tout ça, des poules, des chiens, des chevaux, des ânes,
des
chèvres, des cochons. Donc voilà, il y a de quoi faire sur la ferme.
Pas de vaches.
Et surtout, non, pas de vaches. Et surtout, après, à côté de ça, beaucoup de passages. Donc il y a un flux continu de visiteurs. Et j'ai oublié de dire quand même que notre moyen de distribution de nos produits, c'est à travers des paniers. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important qui a permis d'avoir...
C'est une AMAP, une sorte d'AMAP, non? C'est pas une AMAP.
Justement, c'est une AMAP, mais sans engagement. C'est-à-dire depuis le début, parce qu'au début, on n'avait pas la capacité d'anticiper notre capacité de production et donc pas vouloir trop s'engager mutuellement avec des clients. Donc le choix a été de permettre à chacun de faire ses réservations de
si panier.
Une semaine il veut 2 carottes ou la semaine d'après 20 kilos de carottes, ben voilà, tout est possible.
D'accord.
Et donc c'est une tournée, là justement on est le vendredi, là, pendant la durée de l'émission, peut-être qu'on va repasser le camion là-bas. C'est une tournée sur le territoire de distribution de paniers sur commande, donc par le biais d'un site internet.
D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'activité maraîchage,
apiculture
et chèvre.
Et les jus de pommes et le cidre.
Jus de pommes, cidre, chèvre, ben, bien sûr.
Puis
les fromages.
Ensemble de. En fait, on a utilisé.
Pas de cochon vendu, c'est pour votre autoconsommation.
Non,
d'accord.
Non, ouais.
Et puis vous voyez un peu, vous pouvez aller voir la ferme de la Berthe, c'est pas loin, c'est à Saint-Franc. Et ben voilà, vous pouvez même acheter leurs produits. Tout à l'heure, on essayera de creuser un petit peu plus hein, comment ils ne voulaient pas se laisser endormir par le confort petit bourgeois de la classe moyenne et gagnant bien sa vie. Voilà, on va essayer de voir un peu plus les raisons et puis peut-être aussi en quoi ils sont porteurs de solutions qui peuvent intéresser Saint-Laurent, Saint-Pierre, Saint-Genis, bref, toutes nos cités du coin qui vont être peut-être impactées assez grave par ce qui nous arrive. On va prendre la suite alors, hein, d'accord? On télescope sur la ferme de la bande, ça c'est le plus beau mot que je connaisse. Bande of bande.
La ferme collective de bande, donc un hameau à Saint-Christophe-la-Grotte, où on est donc plusieurs adultes à vivre sur ce lieu avec une petite fille de 5 ans. Et ce qu'on cherche à faire...
Combien,
donc
combien vous alors au total?
En ce moment on est 5.
5 permanente alors? 4 permanentes.
4 permanents. Après, il y a des personnes qui vont repartir au mois de mars. Il y en a une autre courant de l'hiver. Enfin, ça bouge pas mal. C'est un lieu collectif où on expérimente une autre façon de vie, une façon de répondre à ses besoins en direct, c'est-à-dire le bois. Cette année, on en
bois
a...
Bois de chauffe pour chez vous. Boîte chauffe. Pas déchiquetée, pas granulée, pas...
Tout simple, boîte chauffe pour chez nous.
Donc vous faites votre bois.
Voilà.
Grâce aux terres communales, bois communal.
Il y a des terres un peu sur la ferme.
D'accord.
Il y a aussi donner un coup de main pour entretenir des haies, par exemple, avec des bois, des arbres qui meurent. Donc voilà. Il y a aussi, cette ferme est en rénovation, et donc il y a plusieurs éco-constructeurs qui sont à la rénovation gentiment. Et puis un très grand jardin qui nous a nourris toute l'année. Là, on fait des produits transformés maintenant, on les troque, on les vend un peu.
Qu'est-ce que vous vendez alors pour faire écho à la Berthe? Produits en vente chez vous.
Donc il y a de l'ail des ours, du pesto d'ail des ours, du chutney de courgettes, du sel aux orties, mais voilà, c'est une petite
production, pour l'instant.
Une toute petite production.
C'est... Sur 4 hectares, c'est ça ?
Voilà, c'est sur 4 hectares. C'est vraiment pour permettre au lieu de vivre. Ça permet, les ventes permettent, par exemple, de racheter de l'huile d'olive pour faire les futurs pots d'ail des ours ou d'acheter les pots. Voilà, c'est vraiment une économie circulaire.
Pas d'animaux.
Il y a quelques animaux, donc il y a 2 ânes qui entretiennent. On a eu des chèvres à un moment donné qui étaient là à l'occasion d'un congé maternité d'une chevrière. On a des poules donc qui nous apportent les œufs là tout au long de l'année. L'idée est vraiment de créer un lieu autonome et vivrier. Et l'autonomie est presque imposée. Je dis presque parce que c'est quand même ce qu'on recherchait aussi. Parce que le lieu est isolé, il y a 1 kilomètre à pied. Donc tout ce qui arrive à la ferme, c'est en sac à dos, en brouette et parfois en 4x4, quand on a de la chance. Mais donc tout ça se fait à pied. Donc on évite les intrants et on évite d'avoir à en ressortir.
Could stay here always, just watching you breathe, making up some great adventure story where you win all the fame and glory. I could stay here always, dreaming away.
Alors, je voudrais qu'on creuse un petit peu pourquoi vous faites ça. Donc, eux, là, la Berthe, c'était avec Terre de Liens. Moi, je suis actionnaire à Terre de Liens. J'ai mis un petit peu d'argent sans flécher les projets pour que ça laisse plein de liberté à la foncière Terre de Liens. La foncière, elle récupère de la terre pour la mettre à disposition de jeunes gens des villes qui ne sont pas fils d'agriculteurs pour s'installer, hein, pour aller vite. Vous, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez acheté, vous louez, ça marche comment?
Alors, c'est une ferme qui est mise à disposition à la condition de l'entretenir, de s'occuper des deux ânes qui sont là avec la ferme, et d'avoir une activité agricole. Alors, non professionnelle, il n'y a pas d'obligation d'être activité agricole.
Qui c'est qui a mis à disposition?
Alors, c'est une SCI, mais je ne saurais pas vous dire le nom des personnes. Je suis là depuis un mois.
Ah donc, vous n'êtes pas propriétaire de part, les quatre résidents, d'accord.
C'est une possibilité, pour le moment...
Donc, c'est la SCI qui vous loue à vous, en attendant qu'elle ait d'autres... Donc, vous êtes en précaire quand même, là.
On est en précaire, oui, d'accord. Ce qui explique pourquoi le Band of Band n'a pas pu s'installer là, en fait.
D'accord.
Alors, d'après ce que je sais, je suis là depuis un mois, donc...
Donc, on voit un peu comment vous installez, vos motivations. Alors, la question, c'est vous vouliez faire quoi du point de vue social? Bon, que je comprenne bien que vous n'ayez pas envie de faire métro, boulot, dodo, bien payé, bien, etc. Et le confort qui endort, selon la belle expression de Thomas. Est-ce que vous aviez d'autres motivations? Moi, j'aurais tendance à vous dire, est-ce qu'en fait, vous fuyez le crash des banques ou le crash climatique ou enfin tout ce qui va nous arriver? Ou bien est-ce que vous cherchez à partager des solutions avec d'autres gens ou à faire une sorte de comme les moines au Moyen-Âge, de faire des espèces de laboratoires isolés qui, lorsque les temps vont arriver, les temps qu'on redoute, arriveront, vous serez là à diffuser des bonnes pratiques.
Ah, mais c'est dès aujourd'hui qu'on expérimente. Dès aujourd'hui, on a envie de vivre... je pense qu'on est plusieurs, mais je vais plus parler de moi parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. J'ai été intéressé par l'écologie depuis très longtemps. Et puis, quand on vit en ville, quand on a un boulot où on est 5 jours par semaine, 8 heures par jour à s'occuper de ça, on n'a pas le temps. Donc du coup, c'était l'envie de vivre et de travailler dans un sens, alors le grand mot, dans un sens éthique, mais c'est en fait, c'est de nourrir ce qui avait envie de vivre en moi, quoi. C'est pas
Donc vous, motivation, c'est plus un ressourcement de allez, on va pas reprendre l'exemple du Moyen-Âge, mais de moines qui cherchent leur salut dans la méditation et l'agriculture et les bonnes pratiques agricoles, qui défrichent, qui font des fermes qui vont permettre, quand la peste sera disparue, de replanter, de revivre... dans les villages alentours. C'est plus un sens éthique personnel. Mais est-ce que vous avez un sens social? Est-ce que vous faites seulement de l'écologie, qu'on va dire, un peu personnelle? Ou est-ce que vous faites quelque chose qui pourrait être utile à nos vallées de Chartreuse?
Oui, tout à fait. Alors, là, encore une fois, j'arrive. Jusqu'à maintenant, au niveau social, il y a une fois par mois... le deuxième vendredi de chaque mois à Chambéry, au bruit qui court pour le moment.
D'accord.
Ce qu'on appelle un permapéro, qui est en fait un lieu d'échange autour d'un apéro sur le sujet de la permaculture, puisque c'est un des grands outils qu'on utilise pour organiser cette vie, et la rendre...
Donc là, il y a du partage de ce que vous faites sur Chambéry, pour des Chambériens, pour l'essentiel. Pour essaimer un petit peu, non?
Voilà, donc ça, c'est une forme d'essaimage. Sinon, la ferme a beau être isolée, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour des chantiers participatifs, pour des stages de permaculture. Et j'espère donc y rajouter cette année, puisque c'est ma spécialité, les plantes sauvages comestibles aussi, quoi.
Donc ça veut dire que là, ça correspond plus à l'esprit des jeunes, arrête avec ton portable, Thomas, sinon je te mets 0/20 de conduite. Donc les fermes isolées, ces chantiers participatifs, ça permet d'amener toute une population de jeunes qui mettent la main à la pâte, qui donnent un coup de main et qui se forment tout en partageant un projet de vie différent de chacun dans son HLM, chacun son lave-vaisselle, chacun son truc. Ce sur quoi le capitaliste nous a mis dans une espèce de société dite de consommation par laquelle il fait un maximum de production sur le fait d'isoler les individus et de leur créer des besoins artificiels. Bon, on connaît ce modèle qui est arrivé au bout du rouleau et surtout qui a mis la planète au bout du rouleau. Alors, ça, on voit très bien. Est-ce que c'est la même chose à la ferme de la Berthe ? Vous aviez la bande de bons copains qui se retrouvent. Hein. Qu'est-ce que vous pensez faire comme utilité sociale pour les vallées de la Chartreuse ? Évidemment, moi, je suis l'ancêtre. Je suis dans des démarches politico-sociales. Voilà, je sens que ça va mal aller pour les milieux populaires. Ça va déjà très mal. Alors, Thomas, la ferme de la Berthe, comment vous essaimez ? C'est la question. Comment vous faites partager votre truc, compte tenu que tu dis aussi que les temps mauvais, ben, ils sont un peu là, quoi.
Bon, je peux parler pour moi plutôt que pour la... pour l'ensemble des participants, des habitants de ce lieu. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'en ai eu un petit peu marre de vouloir essayer de faire évoluer les mentalités, de vouloir sensibiliser avec, en étant gentil, en mettant autour de la table ou en faisant des cafés-débats, des projections. Une chose qu'on a arrivé à caler avant qu'on achète, avant qu'on commence ce projet, c'est qu'on voulait pas... On ne voulait pas faire de prosélytisme. On ne voulait pas, montrer que c'était super les choix qu'on faisait. Mais par contre, depuis le début, une volonté d'ouverture et d'accueil. Et donc
De militer par l'exemple.
Ouais, en fait, faire. Et si ça m'inspire d'autres, tant mieux. Mais vraiment pas aller chercher pour dire « Regardez comme c'est bien ce que je fais ». Aujourd'hui, n'importe qui se pose des questions, donc effectivement, c'est déjà une richesse que de pouvoir se poser des questions. Donc ça, je suis bien d'accord qu'il y a un gros enjeu d'éducation populaire de base sur les enjeux planétaires, sociaux, économiques, environnementaux. Mais de l'autre côté, il y a déjà énormément à faire que de faire exister un lieu, et c'est pas notre boulot que de vouloir. Je continue à avoir envie de changer le monde, mais j'ai pas envie de changer les gens. J'ai plutôt envie de créer des petites poches d'utopie. Finalement, ça alimente la base de données des utopies. Et ce qui me rassure aujourd'hui, parce que au moment je me disais en fait, ce que je dis régulièrement, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Moi, si ça ne dépasse pas mon intérêt, je vois pas beaucoup de sens à faire ce que je fais. Et souvent, je me dis, c'est à quoi d'exceptionnel, une bande de potes qui achète un bout de terrain pour faire des choses. En fait, plus le temps passe, plus il y a de monde. Enfin, je ne sais pas s'il y a plus il y a de monde, mais en tout cas, il y a beaucoup de flux sur la ferme. Et ce que je vois, ce que je constate, c'est que les gens repartent pas indemnes. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, ils repartent de cette expérience. De l'expérience qu'ils ont eue sur la ferme à nos côtés, avec de la motivation, avec des yeux qui pétillent, et de se dire « Ah ouais, ils l'ont fait, peut-être que moi je peux aussi faire quelque chose là-dedans, d'une manière ou d'une autre, à mon échelle. » Et en fait, ça, c'est ce qui me paraît avoir le plus de sens dans ce qu'on fait. Bien qu'on puisse avoir l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, en fait, juste ce retour et cette impression que ça soit des gens qui sont dans des démarches de vouloir monter des lieux collectifs ou que ça soit des gens qui se retrouvent là parce que un prof leur a dit « Allez, venez, on va voir la ferme de la Berthe », que ce soit des écoles un BPREA ou autant le lycée de Pont là, qui était venu dans le cadre d'une transition économique, je ne sais plus ce que c'était, ils étaient venus, autant que des centres de loisirs, des centres sociaux ou qu'est-ce qu'on a accueilli récemment, un centre éducatif renforcé. Voilà, autant de jeunes qui peuvent se retrouver là, qui n'ont pas choisi de venir, mais pour autant qui en repartent transformés. Voilà. Donc moi, je crois que c'est surtout là-dessus qu'on est en mesure d'agir. Et puis après, de pas être fermé à partir du moment où il y a une ouverture, bien qu'aujourd'hui je sois je revienne un petit peu sur l'idée de un peu l'imaginaire que j'avais, ça, c'est un peu le principe de réalité, l'imaginaire que j'avais de pouvoir accueillir tout le monde tout le temps. En fait, je commence un peu à en avoir marre d'avoir des gens qui passent
en touriste,
voilà, qui viennent finalement. Bon, il y a les gens qui savent pas qu'on fait pas de la vente tous les jours à la ferme et donc qui se pointent pour venir chercher 3 carottes. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que quand il faut aller chercher les 3 carottes pour une personne, c'est vraiment pas rentable. Mais sinon, et surtout, c'est que ça te prend du temps qui est déjà assez compté. Mais sinon. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui veulent vraiment découvrir et puis se donner des billes pour monter des projets comme ça, il n'y a rien de mieux que de venir s'imprégner à travers des séjours plutôt de moyenne à longue durée que de très courte durée. En gros, de venir faire une après-midi, ça va être sympa. Moi, ça va faire que je vais répéter les mêmes choses que je répète tous les jours quand on me pose cette question « qu'est-ce que vous faites là-haut ?» Mais surtout pour la personne qui va venir nous visiter, elle va juste repartir avec des petites brides, des petits bouts d'imaginaire, mais rien de très consistant. Voilà. Donc j'invite les gens à venir partager des bouts de vie plutôt que de venir juste passer. Voilà.
Bon, si j'étais sociologue, je dirais que c'est un modèle qui fonctionne le mieux dans les diffusions d'idées, d'informations et de bonnes pratiques. C'est l'idée d'îlots alternatifs qui sont lieux ressources et surtout qui changent profondément les gens, plus que, bien sûr, des débats dans les cafés, les gabelles idéologiques que moi j'ai beaucoup pratiqué. Je sais que personnellement, hein, d'avoir été au Vieil Odon et à Ardélène, coopérative ouvrière, m'a plus appris sur les coopératives ouvrières que tout ce que j'avais lu.
Dans ce cas-là, vu que tu parles de... Je me suis dit, bon, peut-être que j'en parle pas, mais...
Oui.
Vu que tu parles du Vieil Odon et d'Ardelaine, en fait, on fait partie de ce même réseau, donc qui s'appelle le réseau Repas.
Repas.
C'est le réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires, qui est un réseau qui a une trentaine d'années, qui est un réseau informel d'échange de pratiques entre des gens qui ont décidé de fonctionner de manière horizontale. Et à côté de ça, le réseau, il y a une vingtaine d'années, a fort du constat qu'il y avait beaucoup de gens qui les sollicitaient pour venir découvrir l'une ou l'autre des structures, ont décidé de créer un compagnonnage, donc le compagnonnage du réseau Repas, dont on fait partie depuis maintenant 4 ans, qui consiste à accueillir sur une période de 5 mois, pas en continu sur la ferme, mais à travers l'ensemble des structures participant au compagnonnage à telle année. La promotion, les compagnons vont de lieu en lieu s'immerger ou faire des groupes actions, comme on dit, c'est-à-dire des chantiers entre eux au sein d'une structure. Voilà. Et ça, ce réseau, c'est aussi une manière dont qu'on a de pouvoir...
Partager, les
semer, voilà, oui. C'est ça. Et c'est assez consistant. Et il y a aussi beaucoup de gens indirectement à travers ce réseau qui se retrouvent à passer et à impulser d'autres projets. Moi, je voulais juste rajouter là-dessus sur le. Je disais tout à l'heure que j'étais pas mal inspiré par des projets qui mettaient leur trip sur la table et qui montaient des lieux avec des valeurs, et à quel point l'impact sur du moyen à long terme était intéressant pour des territoires. Moi, je constate juste que depuis 6 ans qu'on est là, il y a une dynamique, peut-être qu'on a été catalysateur. En tout cas, on est arrivé à ce moment-là où il y avait un ensemble de jeunes et de moins jeunes qui arrivaient sur ce territoire, qui était un territoire très attirant parce que une proximité entre Lyon, Chambéry, Grenoble, et pour autant un cadre assez privilégié. Et donc, moi, de voir là, juste en 6 ans, le potentiel de connexion et de réseau qui se sont tissés sur ce territoire et la demande notamment de produits et d'alternatives, me fait dire qu'il y a... Il y a vraiment quelque chose de... On avait le souhait, quand on est arrivé là, de ne pas aller sur un territoire, on va dire, conquis, ou en tout cas un territoire où il aurait été dur de trouver une place. Je pense à, par exemple, certains endroits dans la Drôme, ou le Trièves.
C'est déjà bien...
Voilà, où il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Là, ouais. En fait, on est sur un territoire un peu plus vierge, sur lequel il y a tout à faire, et pourtant déjà beaucoup de gens qui sont en attente et sont déjà en mouvement. Voilà.
Moi qui ai été formateur, vous le dites pas, hein, ou à ma maman, elle le sait toujours pas, qui a été formateur d'enseignants, c'est un milieu, bon, on va rien dire. Mais pour moi, qui ai toujours, toute ma vie, proposé des solutions par lesquelles les enfants apprennent, s'ils font un jardin d'école, ou encore mieux, participent à un jardin collectif ou partagé. Les enfants de Lépin sont venus dans mon jardin, mais pas pour regarder, ils sont venus produire juste des radis et des salades et faire un repas pour leurs parents. En fermant la parenthèse, c'est très important ce modèle par lequel on essaime à travers des pratiques, non pas qu'on visite seulement, mais auxquels on participe. Les enfants en apprennent, disait Jean Piaget, redit par Vygotsky, excusez-moi de faire un peu le savant, mais on n'apprend pas en écoutant un cours. On n'apprend pas en regardant faire quelqu'un. C'est un proverbe chinois qui dit si tu veux m'apprendre à pêcher, ne pêche pas le poisson à ma place, ne me donne pas la canne, mais simplement apprends-moi à pêcher. Et apprendre à pêcher, c'est apprendre aux enfants à se faire eux-mêmes leur propre savoir, et c'est apprendre aux gens à vérifier qu'on peut se nourrir sur quelques milliers de mètres carrés, collectivement, en pratiquant avec ceux qui pratiquent déjà ou qui ont des savoirs. Et le compagnonnage est une excellente solution de formation, c'est un modèle que la société capitaliste ne veut absolument pas développer. Pourquoi ? Parce que bah, ça crée de telles solidarités que les gens ensuite deviennent ingouvernables. Je rappelle qu'en France, 6 millions d'enfants ont appris à lire, écrire et compter avec les écoles mutuelles par compagnonnage, justement. Celui qui savait des maths en 1840 à peu près, pendant ces 20 années, apprenait celui qui ne savait pas. Il y avait 150 personnes dans une grange, 150 gamins, et ils apprenaient très bien, sauf qu'on a découvert que les gamins devenaient des leaders syndicaux et politiques, et qu'on a vite arrêté avant que ça... Alors après, on a mis un maître, une classe, la discipline et les punitions et les notes pour que chacun s'en prenne à lui-même. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse informative, hein, qu'en France, il y a 6 millions d'enfants qui ont appris à lire par l'école mutuelle, et ça, c'est l'école mutuelle. Moi, j'ai participé un petit peu à Ardélène, mais c'est trop long, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une émission pour revenir là-dessus.
C'était La Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.